c'est l'artichaut.
L'artichaut sur les ondes du 101.7, comme chaque vendredi soir, il est 20h et on revient avec de l'amour, de l'art et de la culture, toujours.
Toujours. Bonjour à tous. Carotte avec son petit chat tigré dans la gorge. Oui, pour parler d'amour, d'art, d'art-thérapie, de passion, de révolution mexicaine, de drogue, avec Diego Rivera et Frida Kahlo, parce qu'on a décidé de faire un genre de double portrait. Je pense que c'est quand même Frida qui a gagné, là, au niveau de la notoriété. Donc, on va commencer par Diego. L'ogre Diego, le géant, le superbe, le charismatique, le séduisant Diego Rivera.
Quelle époque ?
Alors justement, alors Diego Rivera, il va naître en 1886. Donc ça fait vieux, hein. Enfin, je veux dire, voilà, il est de la vieille époque, il aurait pu serrer la main de Vincent Van Gogh et des autres. Et donc lui, c'est un fils de la petite bourgeoisie mexicaine. Et donc il va, sa spécificité de tout petit enfant, c'est qu'il va naître avec un jumeau qui va mourir vers 15-18 mois. Donc il va perdre son jumeau. Donc on sait par exemple qu'il est arrivé la même affreuse histoire à Dali, qui portait le nom aussi de son frère mort. Voilà, c'est pour aussi raconter comment l'histoire personnelle et bien sûr les traumatismes de l'enfance et du cerveau et du cœur mélangés peuvent conduire à faire des œuvres monumentales et toute une vie. Parce que les deux, ce qui les rejoint, c'est quand même de gros problèmes d'adaptation et une forme de fragilité. Un parcours artistique classique avec des études à l'Académie des Beaux-Arts. On le connaît pour ses fresques muralistes, mais il faut savoir que c'est un peintre du chevalet tout à fait traditionnel. Et si on a la chance de voir ces géantes fresques qui égayent les murs de toute l'histoire de la Révolution mexicaine, il a aussi travaillé au chevalet, une peinture très féminine. Les rapports, les personnages qu'il fait sont massifs. D'accord. Donc c'est très figuratif. Il va lui travailler sur le communisme et comment changer ce qui se passe un peu au Mexique, parce que là on voit il naît en 1886 au Mexique, c'est le Moyen-Âge, hein. C'est des énormes propriétaires terriens qui ont des genres d'esclaves qu'on appelle les péons, qui sont les paysans ouvriers et qui sont sous-payés, jamais propriétaires de leurs terres. Du coup c'est un système ultra violent avec des castes vraiment voilà, deux castes quoi, les riches et les pauvres. Et du coup il arrive à ce moment de la transition du monde et de l'industrialisation avec en phare les États-Unis, plus loin ce qui se passe en URSS et comment on va pouvoir sortir, enfin faire entrer le Mexique dans l'ère moderne et une certaine forme de justice. Et lui, il va naviguer dans tout ça. Alors là où il est super malicieux, c'est qu'il va réussir, malgré les changements de gouvernement et de président, et puis après la guerre civile, il va réussir à avoir des bourses. Donc pendant tout le moment où c'est vraiment chaud au Mexique, lui, il sera peinard, soit à Madrid, soit à Londres, soit à Bruxelles. Et donc tout du long, il va réussir à avoir des petites allocations du gouvernement mexicain. Alors qu'il est pas, je veux dire, il est tout en début de carrière, hein, donc lui c'est bien, il a déjà bien rempli la petite feuille pour avoir une petite subvention et tout ça. Donc, alors qu'à mon avis, ça doit vraiment pas être vieux ce type de mise en place de bourse et tout ça pour aller visiter l'étranger. Enfin, j'ai trouvé que ça prouvait sa grande intelligence et donc le fait que pendant que c'est le bordel chez lui,
pas
lui,
se laisser faire, ouais.
Ben, il s'instruit à l'étranger. Et du coup, il faut aller jusqu'en 1910. Donc, on va aller en 1910. Donc, c'est l'année de la révolution mexicaine officielle avec Zapata et tout ça. Et c'est l'année de naissance officieuse de Frida Kahlo, parce que Frida Kahlo, elle est née en 1907, donc pendant que lui, il est en Europe. Et elle dira qu'elle est née en 1910 pour montrer tout son amour pour la Révolution mexicaine et dire qu'elle est née en même temps que la Révolution mexicaine.
Yes, flama que se eleva, yes, un pájaro a volar en la noche que se encendió, estrella de oscuridad que busca entre la tiniebla la dulce hoguera del beso que mal amor en sus labios, el infierno es este cielo.
Et en fait, elle racontera, donc on saura qu'elle est née quand même un peu avant, parce qu'elle racontera qu'elle a des souvenirs de toute petite jeunesse, où pendant cette révolution, des soldats zapatistes seraient venus se faire soigner dans sa maison par sa mère, et que donc elle aurait participé dès toute petite déjà à une forme de...
D'engagement.
Ouais, d'engagement politique intense et violent, quoi. Pour en revenir à Diego Rivera, donc il aime les femmes. Hein, donc comme ça, on retrouve chez les peintres un peu qui ont besoin d'être aimés et qui c'est des gens qui la sexualité fait partie intégrante de leur vie et de leur système de création, quoi. Donc du coup, en Europe, il va rencontrer une première peintre qui s'appelle Angelina Beloff. Et avec laquelle il va faire un tour. Donc, il est aussi très intéressé par ce qui se passe à Moscou, quoi, enfin chez les Russes, et donc le communisme qui pourrait sauver le Mexique de sa forme d'impérialisme. Donc, tout naturellement, son cœur va aller s'intéresser au communisme. Alors, c'est avec quand même la touche mexicaine. Donc, nous, c'est difficile de donner un mot au communisme mexicain parce que ils partent du Moyen-Âge. Donc, du coup, leur forme du communisme qui est passionnée est vraiment... violent, quoi, parce qu'ils ont affaire à un truc vraiment dur en face d'eux, un mur, quoi. Plus en même temps l'industrialisation. Donc lui, il va aller faire aussi des petits séjours aux États-Unis et lui, il est un peu le cul entre deux chaises parce que il peut pas s'empêcher d'être en admiration devant la puissance industrielle qui émerge aux États-Unis. Et l'argent, et le fait que c'est aussi là qu'il va pouvoir trouver des mécènes et de quoi être connu et manger, parce que je pense qu'il a désir de notoriété assez vite. Et l'amour pour la terre mexicaine, et cette lutte-là, ça va se voir dans sa peinture de manière intime, et puis ça va lui valoir aussi des grosses désillusions et un gros fracassage. En 1909, il va s'inscrire à une école d'art et il va faire un genre d'autres diplômes à Paris qu'il va avoir. Il va s'installer, il va aller visiter les Pays-Bas. Il va étudier dans un atelier impressionniste, donc avec les impressionnistes, enfin en tout cas les artistes de son temps. Donc il va pouvoir aussi travailler sur tous ceux qu'on connaît de la peinture ancienne et donc les copies et tout ça. Donc il a toute cette culture du travail et des connaissances de ce qu'ont fait les grands avant lui. Bref, on peut s'apercevoir au travers de ça que c'est une bête de travail. C'est-à-dire du moment où il a mis le pied ou la main à la peinture, il n'a pas arrêté. Il revient finalement, après la Révolution mexicaine, faire son boulot à Mexico, c'est-à-dire être prof d'art plastique. Et c'est dans ce cadre-là qu'il va rencontrer Frida, parce qu'il va avoir un mur, une fresque à faire dans la cour du bahut où elle est. Et c'est comme ça qu'il va la rencontrer. Alors, elle a à peine 20 ans et lui, il en a déjà 46, quoi. 46 ans de vie d'un Diego Rivera à travers le monde, peinture classique, intérêt pour le communisme, et duquel on a du mal à séparer l'engouement pour la politique et l'histoire de son pays, tout ça mélangé dans sa peinture. Voilà, 46 ans de vie d'un vrai artiste peintre à la recherche
d'inspiration.
Ben, d'inspiration, mais aussi de culture et de rencontres et tout ça. Il va rencontrer les surréalistes. Enfin, il s'est bougé le cul, quoi. Il n'est pas resté chez lui à faire de la peinture. Donc ça, c'est chouette. Après, donc, quand il va rentrer, on va voir qu'il va commencer à vendre tout de suite. Donc, il y a eu le moment, donc un peu plus tôt, où la femme du gars qui est le président de la République va lui acheter des toiles. Donc, l'État mexicain va commencer à lui acheter des toiles et la femme du président aussi. Donc, on peut dire que, hop, ça y est, il a la notoriété qu'il lui faut. Et quand ce gouvernement-là va être renversé, parce qu'ils vont tous se renverser les uns les autres, il va continuer à plaire. Donc, il plaît un peu à tout le monde. On peut dire que malgré sa super forte personnalité, tu sais, il passe partout à travers les différents mouvements de coup d'État de son pays et tout ça. Bon, et du coup, il est super stable, il est stable, tu vois, on dirait vraiment un géant au pied de fer, quoi. Donc, du coup, il se marie enfin avec Frida, donc, qui est sa troisième femme, et Frida, elle en est folle. Elle s'appelle Calo, donc c'est allemand comme nom, ça fait pas très mexicain. Donc sa maman est une mexicaine pure souche, qui est un peu dévote et pas très lettrée. Et son père est parti à 19 ans d'Allemagne pour devenir photographe. Elle adore son père, et elle vit quand même au milieu d'un gars qui tire ses photos à la maison. Donc elle vit au milieu d'une iconographie de personnages et de quelqu'un qui sait faire du cadrage. Donc sans être dans l'univers de la peinture, la photo et la peinture se rejoignant. Et d'ailleurs, on se dit, mais tiens, c'est marrant, parce que pourquoi est-ce qu'elle n'est pas devenue photographe? Parce que finalement, c'était de son temps. La photographie venant quand même un peu abîmer l'intérêt pour la peinture, quoi. L'art que pratique Frida, pour moi, c'est un art-thérapie, parce qu'au départ, elle était très bonne en sciences et en médecine, elle voulait être médecin. Donc, elle est devenue peintre par une petite déviation, et malheureusement, la déviation, elle est liée à un horrible accident du bus dans lequel elle était, qui va percuter un tramway, et en fait, elle va prendre la barre, comment on appelle ça, la main courante du bus en fer, là, qui va venir la transpercer en lui rentrant par le vagin et pour lui sortir par une clavicule. Donc, tu vois, elle est vraiment transpercée. Et donc, tu te dis, mais c'est quand même fou qu'elle ne soit pas morte. Eh ben non, elle n'est pas morte, parce que elle a ensuite servi un peu de cobaye à la chirurgie de son temps. L'histoire raconte que pendant cet accident de bus, elle était assise à côté d'un monsieur qui transportait de l'or, de la poudre d'or dans un petit sachet, et que pendant l'accident, le sachet s'est ouvert et déchiré, et qu'après l'accident, elle a été retrouvée nue, entièrement recouverte de cette paillette d'or, avec cette barre qui, comme un peu un Jésus-Christ femelle, l'a transpercée de part en part. Et la pauvre gosse, oui, parce que c'était pas son premier désarroi grave, elle avait aussi attrapé la poliomyélite quand elle avait 6 ans, ce qui fait que son pied droit n'avait pas poussé et qu'elle avait une jambe plus courte que l'autre et qu'elle boitait. Et du coup, qu'elle avait déjà une petite chaussure pour handicapés, tu sais, une petite chaussure qui remettait à niveau. Et du coup, dans les cours d'école, voilà, les gens se moquaient d'elle et elle se faisait traiter de Frida la boiteuse. Donc, je crois qu'elle en avait un peu gros sur la patate. Et puis, voilà, cet accident qui vient mettre fin à ses rêves d'études supérieures, d'autonomie.
En médecine et tout,
médecine
du coup.
Et tout, elle, ouais, elle, okay. elle était partie vraiment pour prendre son autonomie, puis faire partie de cette première génération de femmes mexicaines à avoir des diplômes d'études supérieures et pouvoir avoir la vie d'un homme, si je puis dire.
Et donc, du coup, quand on dit que rien n'est dû au hasard, par ce méfait, elle s'est lancée dans la peinture.
Donc, du coup, elle a dû, à cause de cet terrible accident, être alitée pendant des mois, et avoir aussi un corset. Donc, elle était dans une immobilité totale très régulièrement pendant de longues périodes. Du coup, son père et sa mère, pour la sortir de son ennui, lui avaient acheté une palette de peinture. Et en fait, elle a adoré ça. Ça l'a vraiment un dérivatif à la douleur d'une puissance de feu. Et du coup, quand elle est revenue s'installer à la maison bleue de ses parents, elle a fait installer un lit à baldaquin avec des miroirs partout. Donc, il y avait un miroir au plafond, comme dans les vieux bordels. Mais là, c'était pour pouvoir avoir des images de sa figure, d'elle-même, dans tous les sens. Et un chevalet spécial qui tenait sur son lit. Du coup, elle s'est mise avec des tout petits pinceaux à faire des assez petits tableaux d'une très grande finesse, hein, pinceau genre un poil, tu vois, et à peindre sa douleur. Elle est l'unique et seule femme peintre à avoir imagé les tourments des femmes qui sont liés à des souffrances intimes, les fausses couches, donc deux fausses couches, peut-être trois, des difficultés à faire l'amour, surtout avec un monstre comme Diego, et puis 54 opérations chirurgicales qui vont lui prendre toute la fin de sa vie.
Elle a vécu combien de temps, cette petite dame ?
Genre 48 ans. Elle est née en 7 et elle est morte en 54. Et à la fin, ça a été terrible parce que à la fin, donc elle a chopé aussi une mycose de la main droite. Ensuite, elle a eu la gangrène à son pied droit. On l'a amputée. Donc là, il y a ses tableaux qui traitent de j'ai pas de pied, mais j'ai des ailes pour voler. Et on sent bien chez elle, plus son corps s'amoindrit et plus elle gagne en force de caractère. Finissant donc dans son lit en disant j'espère que la fin sera joyeuse et j'espère surtout jamais revenir. Frida va aussi quand même finir sa vie par faire une belle expo à Mexico où elle va être déplacée dans son lit parce que c'est finalement une bronchite qui va avoir sa fin. Donc oui, la fin sera heureuse pour elle parce que Diego sera là, ses amis seront là, il va y avoir cette dernière expo à Mexico, la seule expo qu'elle aura eu à Mexico. Quand elle va aller à Paris, elle va détester les blancs français, les André Breton, les surréalistes. Donc en fait, elle va rencontrer André Breton qui va dormir chez eux parce qu'ils vont recevoir plein de gens. Donc il y a l'affaire Trotsky, mais il va y avoir aussi André Breton qui va venir quand il va être invité par le ministère de la Culture mexicain. C'est là qu'il va habiter chez eux, il va triper à mort sur le couple, la truculence du couple, la richesse, la finesse de la qualité picturale, la force de la qualité picturale de chacun. Et il va vouloir, bien sûr, leur faire une exposition à Paris. Donc, quand Frida Kahlo va s'apercevoir que Diego couche avec sa sœur Christina, là, elle va carrément prendre la rabia et elle va partir avec sa copine pour Paris. Et là, à Paris, elle va avoir la petite expo avec les surréalistes et elle va dire que c'est des fils de pute. Elle les déteste et qu'elle, elle n'est pas du tout surréaliste. Dans la mesure où elle ne peint pas de rêve, elle peint sa propre et intime réalité physique, morale, spirituelle et nationale aussi, parce qu'elle, elle ne se dissocie pas de sa terre mexicaine. Et elle ne va avoir de cesse de s'enraciner, donc elle va refuser l'envol vers les États-Unis. Somme toute, Diego, il va scier la branche sur laquelle il est assise, et donc adieu veaux, vaches, cochons, poulets américains. Retour à la case départ au Mexique, mais où il va quand même être une star, quoi, un monument. Et puis, pendant ce temps-là, Frida va s'amenuiser doucettement, sans vendre ses tableaux, alors que tout le monde crie au génie. D'ailleurs, quand elle était venue présenter toute gosse ses premières œuvres de jeunesse à Diego, il avait tout de suite senti le potentiel qu'il y avait derrière ça, la force. Elle va mettre tout son sang, toute sa sueur, toute sa rage, tout son amour, toute sa passion là-dedans. plus des livres de poésie, donc des poèmes, tous dédiés à Diego, quoi, son mari, son enfant, son père, sa mère, enfin, voilà, il est tout, il est son unique, il est son dieu, son ultime.
Du coup, elle l'a toujours aimé, quand même, en dépit de ce que tu avançais tout à l'heure,
comme quoi il avait dû
être pas terrible, mais elle l'aimait d'amour jusqu'à la fin, quoi.
Elle l'aimait d'amour jusqu'à la fin, et lui aussi l'aimait d'amour jusqu'à la fin, mais voilà, c'est compliqué, entre deux artistes avec autant de charisme et de choses à dire, et puis ils sont tous les deux très solaires, quoi. Donc, du coup, Frida est allée dans l'intime au scalpel, tandis que Diego est allé au monumental. Tu vois, il y en a un, il a pris toute la place extérieure, les fresques énormes avec des personnages grandeur nature et tout. Et elle a peint dans son lit avec un tout petit pinceau les désordres de son intimité profonde.
Llanto no hay, no hay más miedo, no hay, no hay más canto, no hay.
J'ai vu les tableaux de Frida, ça m'a vraiment touchée en plein cœur. Elle a fait une représentation justement quand elle a su qu'elle était cocu pour la énième fois, hein, parce que Diego il se servait de ses modèles et ses muses comme maîtresse, mais bon, ça faisait partie de sa culture, on va dire. Donc elle a peint un tableau qui s'appelle Quelques petites coupures, et c'est une elle a peint un fait divers où il y a un maquereau qui a, parce qu'elle n'avait pas bien fait son boulot, qui a troué 200 petits coups de couteau la fille qui mettait au travail. Du coup, elle avait été choquée par la lecture de ces divers et elle a représenté un tableau donc, qui s'appelle Quelques petites coupures, où tu vois ce gars avec une tête de boucher avec cette petite lame, une petite lame, et le corps. Multi-percé de petites coupures mortelles qui saignent, et mais comment ça arrache le cœur par rapport à la condition de la femme, par rapport à la violence sociétale, conjugale, enfin une violence à tous les niveaux. Non seulement elle était meurtrie physiquement, elle avait une santé fragile et elle a été meurtrie vraiment de manière gravissime dans son corps.
Et meurtrie par le monde qui l'entourait.
Et en plus, meurtrie par celui qu'elle porte au nu, celui qu'elle aime tant. Du coup, c'est une histoire d'amour fatale et triste. Et donc,
on dit les histoires d'amour toxiques, là c'est du toxicity. Là.
Ben, c'est du toxicity, mais quand même avec ce qu'il faut de douceur pour continuer l'histoire. Alors là, tu vois, il y a aussi son arbre généalogique, donc une peinture qu'elle a faite avec ses parents, ses grands-parents et elle. Et donc, elle est dans la Maison Bleue, c'est la petite fille de la Maison Bleue de Coyoacán, la Casa Azul. Et cette petite fille-là, elle est née dans cette maison et elle va mourir dans cette maison et elle l'a déjà peint. Donc il y a aussi un côté de pas de la fée qui peint le futur. Enfin, je sais pas, c'est magique. Il y a quelque chose de vraiment magique là-dedans. Et sachant en plus ce pied qu'elle a en Europe de par ses grands-parents allemands et sa mère mexicaine, enfin c'est un grand bond culturel, moitié allemand, moitié mexicain, enfin je sais pas, c'est splendide quoi. Et du coup de voir que ça a fait son père très bon photographe et elle peintre de l'extrême et unique en son genre, elle est inclassable. Et je pense qu'elle doit être classée aussi dans l'art-thérapie poussée à son sommet. Elle va faire environ 140 et quelques tableaux, je dirais, je sais pas, mettons 150. Et sur les 150, il y a plus de 50 qui vont être de l'autoportrait. Donc ces 50 qui sont de l'autoportrait, qui sont un tiers de sa production, ça veut dire que voilà, elle a passé sûrement un tiers de sa vie au lit. C'est-à-dire qu'il représente toutes les heures qu'elle a passées à l'ité, à ne pouvoir ne peindre que son motif, c'est-à-dire elle, comme elle disait, je suis mon plus beau motif. Bon ben voilà, je suis là, je n'ai rien à faire, je suis seule. La solitude aussi que ça inspire. L'autoportrait comme ça, tout seul, avec ou avec des animaux, la présence réconfortante des animaux sauvages autour de soi, comme des doudous, mais c'est parce que où sont les copains, où est la famille, où est la sœur Christina qui a couché avec son mari, où elles sont ses sœurs, où ils sont les amis, où ils sont les gens qui crient à son génie, où elles sont ses petites copines, où ils sont ses soupirants. Je veux dire, quand elle est au lit, elle est toute seule de chez toute seule, et sa peinture se ressent comme un journal intime. Voilà, c'est un journal intime qu'elle nous offre de sa solitude, de sa souffrance. On voit qu'elle a un sacré franc-parler. Là, j'avais mis dans mon téléphone pour te le lire, parce que c'est trop marrant. Et puis, qui aurait osé... Enfin, franchement, qui aurait osé faire ça ? Dans une lettre à Nicolas Meret, elle fait part de son profond dégoût pour les intellectuels parisiens. Donc, Nicolas Meret, c'est le beau photographe à cheveux blancs et à yeux bleus qui a fait tous les beaux portraits en noir et blanc qu'on a vus d'elle. Alors, elle dit... Ils ont tellement de foutus intellectuels pourris que je ne peux plus les supporter. Ils sont vraiment trop pour moi. J'aimerais mieux m'asseoir par terre dans le marché de Toluca pour vendre des tortillas que d'avoir quoi que ce soit à voir avec ces connards artistiques de Paris. Je n'ai jamais vu Diego ni toi perdre votre temps à ces bavardages stupides et à ces discussions intellectuelles sans fin. C'est pour ça que vous êtes de vrais hommes et non des artistes minables. Bon sang, est-ce que ça valait la peine de venir jusqu'ici pour comprendre pourquoi l'Europe est en train de pourrir et pourquoi tous ces incapables sont la cause de tous les Hitler et de tous les Mussolini.
Waouh.
Donc voilà, ça claque et ça claque, ça claque aussi comme quelqu'un qui sait ce qui va se passer. Du coup, elle est forte, elle est très forte cette Frida et puis elle a pas de, on dirait qu'elle a pas de barrière. Elle écrit comme elle parle. Alors je vais vous lire ce que a dit Diego. Quand il a vu les tableaux de Frida qu'elle lui a amené toute jeune fille, quoi, moins de 20 ans. L'étoile révélait une extraordinaire force d'expression, une description précise des caractères et un réel sérieux. Elle possédait une sincérité plastique fondamentale et une personnalité artistique qui lui était propre. Elle véhiculait une sensualité vitale encore enrichie par la faculté d'observation impitoyable, quoique sensible. Pour moi, il était manifeste que cette jeune fille était une véritable artiste.
C'est beau.
Ouais, c'est beau.
C'est pour ça qu'elle l'a aimé autant, c'est que c'était le premier à avoir de quoi elle était capable, peut-être à ressentir sa peinture.
C'est sûr.
Et tout, quoi.
Bien sûr, c'est son premier mécène, c'est son premier admirateur, c'est lui qui va en faire une femme peintre.
Ma nuit est comme un grand cœur qui bat. Il est 3h30 du matin, ma nuit est sans lune. Ma nuit a de grands yeux qui regardent fixement une lumière grise filtrée par les fenêtres. Ma nuit pleure et l'oreiller devient humide et froid. Ma nuit est longue et longue et longue. Elle semble toujours s'étirer vers une fin incertaine. Ma nuit me précipite dans ton absence. Je te cherche, je cherche ton corps immense à côté de moi, ton souffle, ton odeur. Ma nuit me répond vide, ma nuit me donne froid et solitude. Je cherche un point de contact. Ta peau, où es-tu, où es-tu? Je me tourne dans tous les sens, l'oreiller est humide. Ma joue s'y colle, mes cheveux mouillés contre mes tempes. Ce n'est pas possible que tu ne sois pas là. Ma tête erre, mes pensées vont, viennent et s'écrasent. Mon corps ne peut pas comprendre. Mon corps te voudrait, mon corps s'est allé à mutiler, voudrait un moment s'oublier dans ta chaleur. Mon corps appelle quelques heures de sérénité. Ma nuit est un cœur en serpillière. Ma nuit sait que j'aime te regarder. Chaque courbe de ton corps reconnaît ton visage et le caresser. Ma nuit m'étouffe du manque de toi. Ma nuit palpite d'amour, celui que j'essaie d'endiguer mais qui palpite dans la pénombre, dans chacune de mes fibres. Ma nuit voudrait bien t'appeler mais elle n'a pas de voix. Elle voudrait t'appeler et pourtant te trouver, se serrer contre toi un moment et oublier ce temps qui massacre. Mon corps ne peut pas comprendre, il a autant besoin de toi que moi. Peut-être qu'après tout, lui et moi ne formons qu'un. Mon corps a besoin de toi, souvent tu m'as presque guéri. Ma nuit se creuse jusqu'à ne plus sentir la chair et le sentiment devient plus fort, plus aigu, dénué de la substance maternelle. Ma nuit me brûle d'amour, il est 4h du matin, ma nuit m'épuise. Elle sait bien que tu me manques et toute son obscurité ne suffit pas pour cacher cette évidence. Cette évidence brille comme une lame dans le noir. Ma nuit voudrait avoir des ailes qui vaudraient jusqu'à toi. T'envelopperais dans ton sommeil, te ramènerais à moi. Dans ton sommeil, tu me sentirais près de toi et tes bras m'enlaceraient sans que tu te réveilles. Ma nuit ne porte pas conseil, ma nuit pense à toi. Rêve éveillé, ma nuit s'attriste et s'égare. Ma nuit accentue ma solitude. Toutes mes solitudes sont le silence, n'entends mes voix intérieures. Ma nuit est longue et longue et longue. Ma nuit aurait peur que le jour n'apparaisse jamais plus. Mais à la fois, ma nuit craint son apparition. Parce que le jour est un jour artificiel où chaque heure compte double et sans toi n'est plus vraiment vécu. Ma nuit se demande si mon jour ne ressemble pas à minuit, ce qui expliquerait pourquoi je redoute le jour aussi. Ma nuit envie de m'habiller, de me pousser dehors pour aller chercher ma femme. Ma nuit sait ce que l'on nomme folie. Tout ordre sème désordre est interdit. Ma nuit se demande ce qui n'est pas interdit. Il n'est pas interdit de faire corps avec elle, ça elle le sait. Mais elle s'offusque de voir une chair faire corps avec elle au fil de la désespérance. Une chair n'est pas faite pour épouser le néant. Ma nuit t'aime de toute sa profondeur et de ma profondeur elle résonne aussi. Ma nuit se nourrit d'échos imaginaires, elle, elle le peut, moi, j'échoue. Ma nuit m'observe, son regard est lisse et se coule dans chaque chose. Ma nuit voudrait que tu sois là pour se couler en toi aussi avec tendresse. Ma nuit t'espère, mon corps t'attend. Ma nuit voudrait que tu reposes au creux de mon épaule et que je me repose au creux de la tienne. Ma nuit voudrait être voyeur de ta jouissance et de la mienne. Te voir trembler, ouais, trembler de plaisir. Ma nuit voudrait voir nos regards et avoir nos regards chargés de désir. Ma nuit voudrait tenir entre ses mains chaque spasme. Ma nuit se ferait douce, ma nuit gémit en silence, sa solitude au souvenir de toi. Ma nuit est longue et longue et longue, elle perd la tête, mais ne peut éloigner ton image de moi, ne peut engloutir mon désir. Elle se meurt de ne pas savoir là, et ça me tue. Ma nuit te cherche sans cesse. Mon corps ne parvient pas à se concevoir que quelques roues, une quelconque géographie nous sépare. Mon corps devient fou de douleur de ne pouvoir reconnaître au milieu de ma nuit ta silhouette ou ton ombre. Mon corps voudrait t'embrasser dans ton sommeil. Mon corps voudrait en pleine nuit dormir et dans ses ténèbres être réveillé parce que tu l'embrasserais. Ma nuit ne connaît pas de rêve plus beau que celui-là. Ma nuit hurle et déchire ses voiles. Ma nuit se cogne à son propre silence. Mais ton corps reste introuvable. Tu me manques tant. Et tes mots et ta couleur. Et tes mots et ta couleur.
Tu nous as fait écouter un genre de rappeur là, qui avait fait de la musique sur un de ses textes. Donc, hormis sa peinture, elle a aussi un très beau petit carnet de bord de peinture qui sont des dessins réalisés très rapidement, tu sais, à l'encre et à l'aquarelle. Et puis toujours avec beaucoup de phrases. Donc elle aime bien aussi écrire. Tu vois, elle fait des petites banderoles d'écriture dans lesquelles elle aime bien écrire ce qu'elle a peint, ce qu'elle a fait. La trace, pas seulement l'image, mais aussi la petite phrase de présentation ou bien sentie qui va avec, ou ses hommages et tout ça. Donc remercier d'être en vie, remercier le soleil et ça, donc qui sont dans la tradition, dans les traditions catholiques traditionnalistes qu'il doit y avoir encore au Mexique. Et ça, j'aime énormément. Et puis du coup, ben voilà, c'est son journal de bord. On peut tout retracer de son histoire à travers ses poésies et donc la façon dont elle perçoit Diego, l'amour dont elle le vit. Donc elle a inspiré plein de gens. C'est vrai que c'est deux personnalités qui ont été encensées, photographiées, aimées.
Et sculptées. J'ai vu que sur une place au Mexique, ils étaient sculptés Frida et Diego.
Et Diego. Ouais, ouais. Ben, ils sont personnalités. Ils doivent faire venir rien que la maison, la Casa Azul, qui est devenue le musée Frida Kahlo, doit faire partie des visites de chaque visiteur européen qui va au Mexique, quoi. c'est l'endroit auquel qu'il faut avoir qu'il faut avoir visité. Et ça, c'est merveilleux. Il y a Dali qui fait ça aussi en Espagne, l'effet Figueras et l'effet Dali, quoi.
J'y suis allée dans celui-ci.
Ben oui, et tous ceux qui sont allés en Espagne, ils ont envie d'aller voir ça. Ça fait partie de la culture, un monument de la culture. Du et puis, pays, c'est tellement chouette. Ce qu'il y a, c'est que voilà, c'est super chouette de pouvoir rentrer dans l'intimité. La Maison Bleue est magnifique. Moi, elle m'a fait... elle fait fantasmer avec cette cour. Non, je ne suis pas allée au Mexique. Avec cette cour intérieure, et puis t'imagines avec les paons, les biches, les singes et tout.
Ouais.
Donc, un vrai petit mini paradis sur Terre. Alors voilà, Frida a eu une fin pas très joyeuse, mais joyeuse quand même, parce que finalement, ça s'est bien... Finalement, je crois que tout se passe bien pour elle. Le fait qu'elle ait cette reconnaissance universelle, c'est merveilleux. Elle donne aussi, justement, tu vois, elle pourrait être la sainte de l'art-thérapie, parce qu'elle prouve qu'en ayant une pratique artistique, tu peux te maintenir à niveau et sûrement même augmenter ton espérance de vie, ça c'est certain.
Puisqu'il ne tue pas, ne rend plus fort, et puis utiliser sa souffrance pour en faire une force, ou plein de messages comme ça qu'on devrait tous... adopté
mais
d'une
oui.
Voilà, ben, d'une sinon, certaine manière.
On pourrait en parler encore des heures et des heures. On aime en parler, revenir, y revenir. En plus, régulièrement, il y a des expos. Donc, Frida, maintenant, elle voyage, ses œuvres voyagent et commence à valoir des petites fortunes. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et elle s'est aussi, elle a vachement donné aussi pour vendre des dessins de Diego. Elle a drôlement participé à l'œuvre de Diego et en se, je veux dire, quand elle devait vendre du Diego, elle se sous-estimait. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'était que elle était prête à s'effacer devant son homme. Donc finalement, c'est bien qu'elle soit morte la première. C'est bien qu'elle ait une réussite encore plus universelle que lui. Elle donne envie de vivre un peu dans la beauté du passé et des reines, quoi. On est toutes des reines. Et ça, elle le véhicule super bien. Et ça, j'adore.
We are the queen.
On est toutes des reines, ouais. Bon, je t'aime, Malo. Je te dis à tout vite.
Oui.
Et je vous aime, je vous adore. Et puis, ben voilà.
Que du bonheur.
Que du bonheur, que du bonheur.
Todo lo ajeno, ay, dígame y dígame y y dígame usted cuántas criaturitas se ha chupado usted. Ninguna, 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 lo sé. Ando en pretensiones de chuparme a usted.